De nouveaux invités s'installent à la table d'AOC pour présenter leurs produits du terroir. Aujourd'hui, avec Steve, on prend la direction de Fribourg à la rencontre d'un des trios locaux de rock les plus prolifiques du moment, Dirty Sound Magnet.
Les Fribourgeois de Dirty Sound Magnet sortent leur guitare du bayou vaseux pour revenir à la folk et au rock psychédélique plus aérien. Après DSM3 en 2022, ils ont sorti Dreaming in Dystopia au mois d'octobre. Un nouvel album riche de sonorités, d'arrangements de voix et d'effets colorés. Je reçois le guitariste et chanteur Stavros entre deux dates de leur immense tournée. Bonjour.
Salut Steve, ça fait plaisir d'être ici avec toi.
Après un album très blues rock du terroir, vous voici de retour dans des univers qui vous collent un petit peu plus au dos, c'est le psychédélisme. Alors c'est juste un poil plus folk aussi que ce qu'on vous connaissait jusque-là. Pourquoi ce retour aux sources et à des sonorités peut-être plus apaisées ?
Je dirais que c'est un retour au songwriting. C'est qu'on a mis les morceaux en avant, le songwriting plutôt que l'énergie. Et quand nous, on fait notre musique de manière la plus naturelle possible, c'est ce que les gens appellent le psychédélique. Mais en fait, je pense qu'à la base, ce sont des chansons qui pourraient être jouées totalement en acoustique. Et après, il y a peut-être l'habillage qui fait penser au côté psychédélique. Maintenant, pourquoi ? Je pense que c'est tout simplement une suite naturelle. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup travaillé pendant la pandémie. Et on a fait DSM3, justement pendant, au début de la pandémie, on a exprimé toute notre rage et frustration par rapport à ce qu'on vivait. On a dû annuler des tournées et tout ça. Et une sorte de folie, quand je réécoute ce disque, je me dis qu'il y a vraiment un côté psycho là-dedans. Et dès qu'on avait exprimé ça, je pense qu'on avait beaucoup d'espoir aussi à transmettre. Et si le premier album est l'album des ténèbres, celui-ci c'est l'album de la lumière. Donc on va vers la lumière, malgré des thèmes des fois qui sont sombres, je pense qu'il y a, beaucoup plus de luminosité au niveau de la musique, et justement d'où la légèreté et ce côté peut-être plus, très rêve qui est aussi dans le titre, qui s'exprime par un côté peut-être flottant psychédélique.
Alors on l'a dit, il y a beaucoup de matière dans ce disque, il y a énormément d'arrangements, travail d'artisan de longue haleine. Il y a un moment donné, je me suis demandé si vous étiez toujours que trois dans le groupe.
Oui, on est toujours que trois. Et on trouve des techniques. On essaye malgré tout d'enregistrer en live. Depuis qu'on enregistre, on joue tout en live. Donc en fait, le travail se fait en amont. Souvent, dans une vision moderne, il y a beaucoup de post-prod. Et en fait, ce qui nous colle le mieux, c'est de tout préparer en amont. Ça veut dire que si on doit appuyer sur 5 pédales pendant le morceau, il faut qu'on sache le faire. Et le travail se fait en amont, on recherche notre son. Après, quand on enregistre, il faut juste avoir la bonne take. Et ça simplifie énormément parce qu'il n'y a presque pas de post-prod, il n'y a pas besoin de mix. Et du coup, en live, on retrouve cette impression où on nous dit, vu que ça a été beaucoup travaillé, on nous dit, mais on a l'impression qu'on entend un orchestre et vous n'êtes que trois. Donc c'est l'avantage d'avoir travaillé en amont, c'est qu'on arrive à le recréer en vrai aussi.
Alors on parle beaucoup de pédales d'effet, des fois on a l'impression qu'on pourrait entendre des synthétiseurs, mais même ça c'est pas forcément votre cheval de bataille, vous êtes resté sur les instruments à cordes et la batterie.
Alors depuis l'album Transgénique, on a trouvé un concept qui est de créer des effets synthétiques, donc c'est aussi le titre de l'album Transgénique, on voulait symboliser ce titre par quelque chose de synthétique, mais on a réussi à le faire avec des guitares. Et depuis, ça nous a ouvert énormément de portes. Et en fait, au lieu d'avoir... Le synthétiseur est très à la mode dans tout style de musique les 20 dernières années. Et nous sommes un groupe de rock. Nos instruments, c'est batterie, basse, guitare. Et en fait, avec des guitares, on arrive à créer toutes sortes de textures. Et je pense que c'est une voie qu'on va continuer à emprunter, tout simplement parce que c'est notre son.
Alors on l'a dit, hein, beaucoup de textures, des chœurs nasillards à la Led Zeppelin, des solos qui tirent sur le baroque, des passages folk à la Dylan. Franchement, c'est un vrai parc d'attractions. Je l'ai dit tout à l'heure avant l'interview, une sorte de Bohemian Rhapsody sur tout un album. Comment on fait pour rester cohérent du début à la fin ?
Je pense qu'on ne se pose même pas vraiment la question. Et du coup, j'espère qu'il est cohérent, mais j'ai l'impression qu'il y a une couleur à travers tout l'album. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai bien aimé, t'as dit quoi, une sorte de carrousel.
Oui. Parc d'attraction.
Parc d'attraction. Alors ça, c'est exactement ce que j'ai envie que la musique ce soit. Ça doit être quelque chose de profond, mais ça doit être quelque chose qui qui tient en haleine, qui éveille les sens. Et ça me plaît bien et c'est important. La cohérence, je pense que le temps que la musique est faite avec sérieux et une volonté de rester authentique, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'y réfléchir parce que ce sera une évaluation finalement personnelle et subjective. Nous, tant que nous, on est vrai avec nous-mêmes et qu'on fait les choses par amour, avec sérieux justement et avec passion, ce n'est pas une question qui se pose, la cohérence.
Il y a un moment donné, ça m'a fait penser un peu à la dynamique d'un groupe comme King Gizzard and the Lizard Wizard, les Australiens qui ont une production phénoménale. On se souvient de l'année des 5 albums en une année, c'est énorme. Mais qui n'ont pas peur d'ouvrir aussi leurs possibilités à plein d'autres styles. Il y a des albums qui sont complètement différents les uns des autres. Est-ce que c'est aussi un groupe qui vous a un peu donné des tips un petit peu et puis peut-être libéré, je ne sais pas.
Alors, je trouve que c'est une très bonne, un très bon point de comparaison. Là où je mets la différence, alors c'est un groupe clairement jumeau de The Sound Magnet. Là où je mets la différence, c'est qu'eux, ils varient d'album en album. Ils peuvent faire un album de metal, un album de disco même, de jazz. Ils peuvent tout varier. Et nous, ce sera plutôt à l'intérieur de la musique qu'on va trouver ces variations. Plutôt que d'un album à l'autre, on va peut-être apporter différentes couleurs, mais le style fondamental ne va pas varier. C'est plutôt la richesse, elle se retrouve à l'intérieur même des morceaux. Maintenant, il y a deux groupes les deux groupes viennent d'Australie, qui nous ont énormément ouvert le champ de possibilités. Il y a au début des années 2010, le groupe Tame Impala, qui lui, en fait, je pense qu'il a ouvert des perspectives à des musiciens dans le monde entier. C'est qu'en fait, tu peux produire ta musique toi-même dans ta chambre et tu peux faire de la musique poussée, tu peux trouver des sonorités incroyables. Et en fait, c'est possible, tu n'as pas besoin d'aller dans un grand studio. Et en fait, ça a ouvert énormément de possibilités. Et en plus, ça permet de faire quelque chose d'authentique parce qu'en fait, c'est toi. Après, il faut travailler, mais c'est toi qui vas décider de la direction. Il faut beaucoup travailler, comprendre le son, étudier ton son, c'est un travail de scientifique, mais c'est un travail d'artisan. Et je crois que ça, c'est une des perspectives qui s'est ouverte par Tame Impala. Après, c'est très pop aujourd'hui.
Ouais, il est parti aussi beaucoup sur les claviers, lui. Hein. C'est aussi son dada.
Ouais, les claviers. Et en plus, aujourd'hui, je crois qu'il fait des tracks pour Disney. Donc, en fait, ça parle moins aux musiciens aujourd'hui. Par contre, King Gizzard, eux, ce qu'ils ont amené, en plus de Tame Impala, donc c'est deux groupes qui ont pas mal ouvert de perspectives, c'est qu'eux, ils ont fait du rock. Alors eux, ils se situent plutôt dans leurs influences, peut-être la base de leur son, là où nous, on est plus classic rock, eux, ils sont plus punk. Nous, on est plus Jimi Hendrix, et ils sont plus dans un truc vraiment punk. Mais malgré tout, ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'en restant complètement eux-mêmes, en s'éclatant, en faisant la musique comme ils l'entendent, ils ne cherchent pas forcément à avoir une étiquette, un style. Et malgré tout, ils arrivent à construire une carrière en restant 100% authentique et en restant en dehors du rockstar system, tout ça. Et ça, peut-être, ils ont à peu près notre âge. Et nous, quand on a grandi, on voyait Slash à la télé. Quand t'as 5 ans, tu vois Slash et tu vois Nirvana. Donc tu te dis, ah, c'est ça, si tu veux faire du rock, tu dois être une rockstar. Et en fait, quand tu vois des musiciens qui arrivent par l'artisanat, par leurs propres moyens, en fait, c'est un modèle qui aujourd'hui me parle beaucoup plus parce que j'adore les concerts où je peux voir les gens, où on peut les regarder dans les yeux. Il se passe un truc très humain et ça a complètement changé notre vision, de notre approche de ce que ça veut dire d'être musicien. Et j'aimerais ajouter que il y a une période de 1955 à peut-être 2010 où il y a tout ce star system qui s'est créé, très américain, très capitaliste, où les gens ils ont des jets privés, les artistes ont des jets privés, ont des sortes de manoirs comme habitat. Mais en fait, c'est pas la normalité. L'artiste, c'est un galérien. C'est un musicien de Brême qui va de ville en ville et si quelqu'un veut lui lancer un petit morceau de pain pour qu'il se nourrisse, c'est comme ça. Mais lui, il fait sa musique parce que c'est ça qu'il a envie de faire. C'est pas à des fins économiques. Après, bien sûr, on doit survivre, c'est une autre réalité. Mais la normalité, c'est qu'un musicien, il galère. Pas qu'un musicien, il soit riche.
Vous avez changé de label aussi dans la foulée. Vous êtes approché de Wild Things Records en Australie. C'est aussi pour être un peu près de cette scène foisonnante.
C'est difficile parce que là, on rentre dans du business. Quand tu as un groupe,
Oui, j'ai oublié que vous étiez des galériens.
Ouais, mais justement, donc, quand tu as un groupe, tu essaies de trouver les moyens pour faire vivre ta musique. Alors tu as des labels qui t'approchent, qui te promettent des choses et tu vas là où tu penses que c'est juste. Et on avait travaillé de manière plus artisane avant avec un label suisse, avec Humus Records. C'était cool, ça nous a fait avancer. Et là, on avait besoin de s'ouvrir un petit peu aussi et de trouver d'autres perspectives pour faire vivre notre musique, parce que bien sûr, la Suisse est un très petit marché. Et ça faisait un moment qu'on tournait à l'étranger, on avait besoin d'une distribution plus globale. Et c'est pas un label qui est dans cette scène, c'est un label qui est plutôt dans la scène progressive. Donc c'est même pas pour ça, c'est même pas parce qu'ils sont australiens, pas parce que tous leurs groupes n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. C'est juste qu'ils ont aimé le projet et ils nous ouvrent des portes vers d'autres pays. Ben là, on va commencer à tourner aussi aux États-Unis. Donc c'est plutôt, voilà, là c'est plutôt pour faire grandir notre vision, pour faire avancer le groupe.
Stavros, vous restez par là, on va écouter un premier extrait de ce disque, c'est le premier single, Lonely Bird. On reprend la visite juste après. Summer days are gone. Summer haze, it has burned my wings. The feathers of love we've grown can't protect us anymore. The thunderstorm can be stopped. There's a lonely bird waiting in the rain. Let me tell you, girl, to let me go. We've been dancing in the rain far too long. Let me tell you, girl, to let me go. We've been fighting in the rain far too long. Lonely Bird, l'oiseau qui reprend son envol, morceau issu du nouvel album de Dirty Sound Magnet, Dreaming in Dystopia. Je suis toujours avec le chanteur et guitariste du groupe Stavros. Stavros, Lonely Bird, c'était un des premiers clips que vous avez livré pour la sortie de cette LP. Un clip en stop motion avec des personnages et des décors faits au crochet par Léonie Gautreau, réalisé par David Pavlik. C'est vraiment un travail de titan.
Exactement. En fait, je trouve qu'ils ont fait un super travail qui représente super bien notre travail. C'est-à-dire, c'est que là, on arrive à le voir avec nos yeux parce que justement, c'est fait au crochet, c'est fait en stop motion, donc ça prend énormément de temps. Et c'est comme ça qu'on a fait aussi tout l'album, autoproduit. Et le clip va de pair avec la musique. Et il y a ce côté, je trouve qu'ils ont même réussi à reproduire le grain qu'il y a dans la musique, ils ont réussi à le reproduire dans l'image. Du coup, c'est vraiment un match. Et
il y a toutes les couleurs aussi qu'on retrouve qui sont vraiment en phase, l'aspect métaphorique qui nous ramène encore une fois au psychédélisme aussi.
Oui, oui. Alors, c'est en fait, maintenant pour parler un peu du sens du morceau, c'est tout simplement une chanson d'amour où c'était une séparation douloureuse que j'avais à l'époque. On n'arrivait pas à se séparer avec ma copine de l'époque. Et du coup, cette chanson est un peu une métaphore pour dire, en fait, il faut que je te laisse partir. C'est l'oiseau qui parle au lieu de parler moi-même. C'est peut-être un peu lâche, on fait parler un oiseau à sa place. Mais là, c'est un oiseau qui s'adresse à un autre et qui prend la métaphore justement de la migration. Écoute, l'été est fini, l'été de l'amour est fini. Et tous les oiseaux migrent vers le sud. Mais malheureusement, j'ai des ailes brisées. Alors, je ne vais pas pouvoir voler avec toi, on ne va plus pouvoir voler ensemble. On a trop dansé sous la pluie, on s'est trop battu sous la pluie. Il faut que tu prennes ton envol toute seule. Voilà. Et du coup, c'est une manière assez romantique pour finir une relation.
Ce qui est en phase finalement avec le titre de l'album, Dreaming in Dystopia, rêver d'un autre futur, d'une autre marche en avant. On rêve de quel chemin avec Dirty Sound Magnet pour le futur? Où est-ce qu'elle nous emmène, cette dystopie?
Alors, Dreaming in Dystopia, c'est un message d'espoir, je dirais déjà. On était au milieu de la pandémie et en fait, on avait exprimé toute notre rage avec l'album précédent DSM-3. Et là, tout à coup, on se remettait à rêver parce que la musique, ça nous a toujours fait rêver. En fait, on s'est dit, malgré toute la dystopie qu'il y a autour de nous, parce que, et depuis, c'est pire, hein. Il y a les guerres qui s'enchaînent, c'est encore pire que le Covid, en fait. Parce que là, en fait, nous, on reprend une vie normale, mais il y a des gens qui souffrent dans le monde entier. Donc, j'ai beaucoup de peine à voir ça, d'ailleurs. Et c'est peut-être encore plus actuel maintenant, et c'est peut-être un message d'espoir, c'est que la musique, c'est tellement universel. C'est, malgré toutes les difficultés, les horreurs qu'il y a dans le monde, la musique, elle peut toujours être dans un soi intérieur. C'est peut-être la meilleure religion qui existe parce que c'est la seule qui n'a jamais fait de mal à personne. Alors du coup, c'est vraiment un message d'amour envers cette idée musicale que nous, on vénère et qui nous fait rêver. Et malgré toute la dystopie qu'il y a autour de nous, on va toujours pouvoir rêver grâce à la musique.
Et il y a des rêves qui parfois nous emmènent dans des paysages assez étranges. On en arrive au deuxième clip disponible sur Insomnia, où là, vous vous êtes imaginé un Jimi Hendrix qui rejouerait Karate Kid, emmené par un sensei qui le propulse sur la scène. Il y a beaucoup, c'est très drôle, c'est très drôle.
Oui, alors ça, c'est vraiment l'humour de notre pote réalisateur. On lui a filé l'album. Lui, il habite à Dubaï, il a son délire, il fait des clips vidéo. C'est Maxime Kramat, un pote d'enfance. Il est issu d'un tout autre style de musique. Il fait des clips électro, des clips rap. Donc, il a une sensibilité différente de la nôtre. Alors, lui, il a écouté ce morceau. Lui, ça l'a fait triper d'une autre manière. Alors, il s'est dit, il n'a pas du tout pris en compte mes paroles qui sont qui traitent de l'insomnie, de la torture, d'écrire un morceau beaucoup plus torturé comme morceau. Et lui, il en a fait une sorte de blague avec ce Karate Kid, Jimi Hendrix. Et en fait, il nous avait proposé le scénario, on a dit, tu sais quoi, vas-y, éclate-toi. Et voilà, maintenant, on trouve ça aussi assez drôle. Ouais.
Ça apporte un petit peu plus de légèreté à tout ce discours, qui n'est pas plus mal. C'est à voir, bien sûr, sur toutes les plateformes. Stavros, l'album n'était pas encore sorti, que vous avez déjà lancé une tournée mondiale d'une centaine de dates. Comment ça se passe?
Ça se passe super bien. Alors là, on a vraiment vécu des choses surréaliste parce que après un moment quand t'es en tournée et que t'enchaînes les dates les jours et tu reportes le matériel, tu te réinstalles, t'es dans un autre pays, 5 jours après t'es dans un autre pays et t'enchaînes vraiment les dates. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on joue 2h, 2h30 par soir, donc c'est des longs concerts. Tu rentres dans une sorte de transe, tu sais même plus tu t'enchaînes les chambres d'hôtel, tu sais même plus où tu dois aller, tu sais même plus le numéro de chambre, tu entres chez les gens, tu sais pas où t'es, et ça devient psychédélique malgré nous. Il y a vraiment pas besoin de produits, il y a rien besoin du tout, ça devient hyper psychédélique de base, mais on vit des expériences magnifiques parce que finalement tout ça prend sens, tout ça est très répétitif en fait, les chambres d'hôtel et les installations de matériel, mais le public, c'est la réception du public, l'amour, l'énergie qui est transmise entre nos notes, leurs yeux, notre sourire, le leur, tous ces regards, toute cette énergie qui se transmet, là ça prend du sens et ça rend le tout en fait vraiment magnifique. Maintenant qu'on a en plus un public partout, c'est une énorme surprise pour des petits paysans de Fribourg de faire le tour du monde et tout à coup de toucher les gens profondément. Je crois qu'on est éternellement reconnaissant et pour nous maintenant c'est que du bonheur et en fait on a envie d'en donner encore plus aux gens.
Le rêve continue.
Ouais, et c'est ça. Et en fait, on vient nous dire après les concerts, mais hey, les gars, mais en fait vous allez aller beaucoup plus haut, vous allez jouer dans des endroits beaucoup plus grands. Et en fait, moi ce que je leur dis, non mais en fait vous savez pas d'où on vient. Nous on vient on jouait devant 0 personne, 5 personnes, 10 personnes. Nous on est super contents de remplir des salles de 200 personnes tous les soirs. Nous c'est bon, on a gagné en gros, tu vois. Nous on est super satisfaits. Le seul truc qu'on demande, c'est de pouvoir continuer à garder un rythme où puisse faire ça sur scène et retourner en studio. Et là, par exemple, le studio, ça commence à m'inquiéter parce qu'on a tellement de tournées prévues que là, le prochain album, je fais que d'y penser, mais je regarde notre calendrier et je me dis, mais où c'est qu'on va pouvoir prendre quelques jours pour aller en studio? Et c'est quand même très important, il faut qu'on réussisse à préserver cette dynamique et qu'on ne soit pas pris dans cet ouragan d'agents qui veulent te rebooker. Parce qu'en fait, après, à un moment, quand tu commences à générer de l'argent, ben, tu commences à générer des intérêts et ça commence à devenir intéressant, tant mieux. Mais il faut faire attention que nous, on doit garder la ligne de mire qui est le côté artistique. Il faut toujours qu'il soit devant nous et c'est le plus important, on doit le poursuivre. Les divers dangers, c'est un peu ça. Je pense que ce n'est pas un vrai danger pour nous, c'est de se perdre. Je ne pense pas que c'est un danger parce qu'on s'est tellement battu pour exprimer notre art. Mais ça pourrait être un danger pour des groupes si tu perds un peu le sens des réalités. L'autre danger, c'est qu'il faut faire attention sur la route, tout simplement. Parce que quand tu conduis beaucoup, statistiquement, tu es plus exposé à un accident de la route, à je ne sais quoi. Et puis après, la seule limite, c'est la vie. Le temps qui passe, ça nous fait peur en fait, le temps qui passe. On se dit, mais attends, on a tellement de morceaux,
attends, est-ce que la vie sera assez longue pour te exprimer ce qu'on a envie d'exprimer? C'est que, voilà, on est lancé dans notre rêve et on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, c'est plutôt très positif.
Merci beaucoup, Stavros.
Merci à toi, c'était un plaisir. Très bonne séance de questions.
On rappelle, chanteur et guitariste de Dirty Sound Magnet, les Fribourgeois ont sorti un nouvel album rock folk psychédélique très dense baptisé Dreaming in Dystopia. On se quitte avec un ultime extrait, c'est le morceau phare Dreaming in Dystopia.